dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Le mois de janvier 2007, selon Michel Delisle.
Janvier 2007. On a changé de chiffre. Des gens pensent que ça fera une énorme différence avec les mois qui précèdent. D'ailleurs, bien avant la fin de l'année, j'entendais des personnes dire leur désapprobation de 2006. Comme si le chiffre lui-même était porteur d'une volonté propre à laquelle nous avions été assujettis, envers et contre nous. Si 2006 peut donc finir, disait-il. Au moment où je vous parle, il fait un froid de janvier, avec du vent et de l'humidité qui accentuent ce froid. Moins 25 degrés avec l'indice de refroidissement. Le dehors est inhospitalier. Je suis dans l'atelier. C'est samedi. Il fait soleil, mais le dehors a disparu, car le givre a complètement obstrué ma vue, devenu impossible. Je suis seule, comme on l'est toujours dans l'atelier. Encore plus seule peut-être, car mon paysage familier, celui que je vois de mes fenêtres, c'est-à-dire la montagne qui change de couleur avec les heures et les saisons, et ses constructions reconnaissables, l'université, l'oratoire, un peu plus loin le sanctuaire, et juste en dessous il y a une usine à fabriquer des bombes de la dernière guerre, et surtout quelques arbres, dont les têtes maintenant effeuillées, se balance dans le vent. Et cet espace, donc, aussi rempli de beaucoup de ciel, ce qui est un luxe extraordinaire, est-il soudain réduit à quatre murs, percés de fenêtres, mais toutes aveugles. Retour sur le « je », donc, et sur ma voix, qui en ce jour d'enregistrement s'entend, ce qui me surprend passablement. L'atelier est un lieu de silence, normalement. Un lieu muet. Ce n'est pas la parole qui est ici maîtresse. La peinture travaille dans l'innommable, dans l'en-deçà du verbal, dit Daniel Arras dans Histoire de peinture. Elle échappe au processus verbal et au procès verbal que l'on dresse. Est-ce ce qui me la rend si fascinante? Mais aujourd'hui, ma voix résonne, remplie de mes mots, que je projette loin de moi et je m'entends. Difficile exercice d'ailleurs, mais premier pas vers le dehors, vers vous, grâce à cette technologie qui dans quelques jours nous unira concrètement le dedans avec le dehors, par une magie que j'ai encore beaucoup de mal à comprendre et qui coûte, je l'ai lu ce mois-ci, 350 kilos de pétrole brûlé pour chaque ordinateur. J'ai accepté la proposition de Nicolas au courant de l'été, alors qu'il venait de terminer un texte pour le catalogue de mon exposition à venir. J'ai accepté parce que Nicolas est une très belle rencontre de mon année 2006, mais aussi parce que l'idée, presque un jeu à ce moment-là, m'attirait. Au fur et à mesure des mois qui passaient, je réfléchissais à cette question. En m'efforçant de regarder le monde autrement, à travers une lunette plus large, ou de grossissement, comme celle qu'utilise ma grand-mère de 102 ans qui, elle, a déjà vu, de ses yeux vus, passer tout le 20e siècle. Je pensais à ce dehors, cet entre lui et moi, et ce mot impossible entre lui et moi. Ce mot énorme qui revenait encore chez Nicolas après l'intitulé de son livre « Le deuil impossible, nécessaire » qui m'avait mise en contact avec lui. Les mois de l'automne ont passé et je collectionnais, pour ainsi dire, les événements, les sensations. Je m'exerçais à essayer de saisir intelligemment, c'est-à-dire avec pertinence, le vaste, le très vaste dehors, celui qui me dépasse et pour lequel, je devrais le constater, j'ai peu d'aptitudes, c'est-à-dire que je n'ai que peu de moyens. Car deux tableaux se chevauchent continuellement. La petite toile du « je » et de ses liens rapprochés et le très grand tableau du dehors, aux multiples connexions, aux différents niveaux indéfiniment superposés, à l'image si complexe qu'il est impossible de la saisir d'un seul regard. Entre les deux, l'adaptation est loin d'être automatique. Mais entre ce « je » du dedans de l'atelier et ce « dehors » imprenable, c'est-à-dire toujours m'échappant, en ce moment, il y a l'espace de la vitre, comme je dirais l'espace de la peinture. Car la vitre n'est pas vide. Elle est même plus pleine que d'habitude. Le froid, au contact d'une certaine chaleur intérieure, s'est matérialisé en une multitude de cristaux aux formes extraordinaires. Et ma vue s'y arrête. Je suis prise dans cette toile de minuscules points blancs qui sont tous regroupés ensemble pour graver la fenêtre d'une multitude de dessins. Fabuleux dessins, d'ailleurs, dans lesquels je me perds en continu. Un jeu de l'enfance. Mon regard s'y fixe, prodigieusement capté, séduit. Et de nouveau, l'espace bascule. Je ne suis plus ni dedans, ni dehors. Je suis dans un entre-deux. Même le temps s'arrête. Un bénéfice marginal de qui est saisi par l'observation. Ma tête, ou plutôt ma raison, qui normalement filtre tout pour me rendre efficace, enfin elle essaie, se tait. Et d'autres connexions s'établissent. Y a-t-il encore un « je », un « nous », un « dedans » distinct d'un « dehors » Je vois tout simplement, et ce simple exercice abolit momentanément toute contrainte, toute frustration, toute obligation. Je ne suis que sensation. Je ne cherche pas à comprendre d'où viennent physiquement ces cristaux, ou chimiquement, ou moléculairement. Je vois et je jouis tout simplement de cette beauté. Car ici, en ce moment, il y a une vraie beauté qui m'est offerte, entièrement et sans condition. C'est un luxe. Mais c'est celui de l'être humain, même si trop facilement, on l'oublie au profit de choses souvent compliquées, trop coûteuses, des objets sophistiqués, des possessions encombrantes. Ce givre me ramène temporairement à une marge où le présent est aboli, ce présent qui me harcèle en continu, le petit présent de tous les jours, prévisible et répétitif, des choses à faire, à rendre, à organiser, à calculer pour ne pas se faire piéger. Ce présent à la fois dedans et dehors, qui pour moi en ce mois de janvier est particulièrement contraignant, car en même temps que je clôt une expo, je m'apprête à quitter Montréal pour 7 mois. Ainsi suis-je forcée d'abandonner ma routine, c'est-à-dire la séquence régulière des gestes que l'on pose dans une journée et qui relie les journées les unes aux autres. Cette routine donc, qu'elle soit ou non contraignante d'ailleurs, est sécurisante, car elle rattache le « je » à une base. Un semblant de base peut-être, une base totalement inventée même, mais c'est une construction qui nous évite le vertige du dehors. Combien de personnes d'ailleurs, se retrouvant soudain en congé un peu prolongé, sont complètement désorientées, au point parfois de ne pas pouvoir faire face à cette étrange nouveauté. Un présent sans frontières. Ce présent donc qui m'appartient, et même me constitue, pas tout à fait moi, mais en même temps indissociable de ce que je suis, échange continuel entre le dedans et le dehors donc, en ce moment signifie une planification et une exécution minutieuse d'une multitude de tâches qui vont dans toutes les directions à la fois, et qui, par leur nombre soudain accru et leur grande variété, m'agitent et me désorientent temporairement. Ce sentiment relativement inconfortable proviendrait-il de ce que l'amoncellement de ces tâches bouche temporairement toute possibilité de fréquentation de la marge? Pourtant, j'ai l'habitude. Je pars chaque année depuis de nombreuses années, pour plusieurs mois, car j'amène en Italie des petits groupes de personnes que je guide au jeu de l'observation par le dessin et à une réflexion sur l'histoire. L'Italie où j'ai vécu est mon dehors élargi, ma marge obligatoire et salvatrice, ma deuxième respiration. Pour y arriver, je dois sacrifier presque toute ma paix d'aujourd'hui en m'efforçant de maintenir le ballon, comme on dit chez nous. Quand Nicolas m'a proposé janvier, j'étais contente. Et sans doute aussi étais-je un peu étourdie. J'étais contente d'avoir le privilège du premier mois de l'année, du commencement, c'est-à-dire de cet espace où sont contenus tous les espoirs. Le mois de janvier, c'est un peu comme une feuille blanche sur laquelle, momentanément, nos rêves reprennent leurs droits. On efface l'année qui vient de passer avec son cortège de petites ou grandes misères, de défaites et de frustrations. On joue à être neuf. On prend des résolutions, on se fait des promesses, on espère beaucoup. Mais janvier n'est pas seulement le premier mois d'une nouvelle année. Il est aussi pour moi, en ce moment, et doublement, le passage obligé pour le début d'un recommencement. J'ai accepté donc, sans trop réfléchir, ce défi, car c'en est un. Et j'allais le réaliser bien vite, car au moment où je dois tourner vers moi le maximum de mes énergies, l'exercice m'oblige en même temps à garder un œil sur la loupe grossissante, celle qui me tire hors de moi vers le dehors, vers le monde. Je réalise alors non seulement combien cette tâche est ardue, mais qu'elle l'est à tout moment, c'est-à-dire en continu, tous les mois de l'année, tant il est difficile de concilier l'étroit dedans et le vaste dehors, tant il est difficile de s'occuper d'un peu plus large que le bout de son nez. Je parle pour moi, d'abord, tout en sachant que je ne suis certainement pas la seule. Je réalisais aussi que cette attention constante se payait d'une sourde angoisse. Car dehors, les journaux et les médias me ramènent presque exactement les mêmes nouvelles que celles de 2006. Bagdad, entre feu et sang. Afghanistan, toujours exsangue, jamais réglé. L'Afrique, les guerres de clans toujours plus violentes. La faim sans issue, le sida qui galope et les solutions toujours en attente. L'espace des étoiles déjà encombré de déchets. Le Baiji, une espèce de dauphin qui a disparu du Yangtze après y avoir vécu tranquillement pendant 20 millions d'années et dont les derniers spécimens, recensés il y a quelques années à peine, ne furent pas déplacés à temps, faute d'une technocratie trop lourde. Les orignaux d'une réserve se baladant avec un taux d'arsenic 450 fois supérieur à celui de la normale. Des décisions hésitantes, des rapports qui manquent, des fraudes gouvernementales comme à la mafia, des accommodements raisonnables dont on ne sait s'ils ne recouvrent pas plutôt des désengagements déraisonnables et dangereux. Ces nouvelles que nous recevons en continu, entre le jour et la nuit, mais assis confortablement souvent, au chaud, loin de ce dehors inhospitalier de janvier, avant ou après avoir mangé à notre faim. Au fur et à mesure du mois, et par l'effort que m'imposait ce petit exercice presque innocent, je mettais le doigt sur une terreur sourde et profonde qui m'habite, nous habite tous peut-être, en continu. Le monde nous échappe. Le dehors est traître. Pendant toute ma jeunesse et mon adolescence, mon père, qui était un coureur des bois dans l'âme, et qui d'ailleurs avait été garde forestier dans sa jeunesse, nous amenait pendant de nombreuses semaines au fond d'un lac, sans route, au bord d'une forêt profonde, où il nous apprenait à ne pas avoir peur de la nature. Il disait qu'il suffisait de la respecter pour qu'elle nous respecte. Il disait aussi, non sans humour d'ailleurs, qu'elle était beaucoup moins dangereuse que la ville et son semblant de civilisation. Ainsi en était-il de l'ours brun qui rôdait, ou des coyotes qu'on entendait hurler à la lune dans le lointain, pas si lointain, et qui nous terrorisait. Si d'aventure, lors d'une de nos sorties en raquette, à la queue leu-leu, guidée par la science mystérieuse de sa boussole, nous les voyions passer à la lisière extrême d'un lac voisin. Mon père nous enseignait alors les rudiments d'un comportement respectueux de ces autres qui habitent notre monde, les bêtes, souvent ignorées, trop souvent méprisées. Ces bêtes dont nous fixons tous les jours le destin, très inconsciemment, jusqu'à les faire disparaître. Il nous enseignait, sans jamais le dire, que le plus grand danger pour la Terre, c'est peut-être l'homme, son pire ennemi ou son plus grand espoir. Ainsi, comment rester tout à fait tranquille quand le début de janvier est chaud comme un printemps? Dans les pages de Nouvel Obs, je lis un bout du rapport Stern. C'est un monsieur très sérieux qui fut économiste pendant 4 ans à la Banque de reconstruction et de développement avant d'exercer les mêmes responsabilités pendant 4 autres années à la Banque mondiale. C'est dire qu'il n'a pas beaucoup d'amis chez les altermondialistes. Et pourtant, il parle des faits et sans état d'âme. Avec 1 degré de plus sur la Terre, les petits glaciers des Andes disparaissent, ce qui réduit la ressource en eau de 50 millions d'individus. 300 000 personnes, chaque année, meurent de diarrhée, malaria ou malnutrition. 10% des espèces terrestres disparaissent et 80% des coraux sont touchés, y compris la grande barrière de corail australienne. Le dégel affecte maisons et routes dans le nord du Canada et de la Russie. Le Gulf Stream commence à ralentir. Je continue. Avec 2 degrés de plus qu'aujourd'hui, l'eau disponible en Méditerranée et dans le sud de l'Afrique diminue de 20 à 30 %. Les récoltes baissent de 5 à 10 % en Afrique tropicale. 40 à 60 millions de personnes supplémentaires sont exposées à la malaria, toujours en Afrique. L'eau des océans monte et les inondations côtières affectent 10 millions de personnes chaque année. 10, 15 à 40 % des espèces sont en danger, à commencer par l'ours blanc et le caribou. La fonte des glaces s'accélère avec, au bout du processus, le risque de voir le niveau des mers monter de 7 mètres. 3 degrés de plus et l'Europe du Sud est sévèrement touchée avec des épisodes de sécheresse tous les 10 ans. 4 milliards d'humains souffrent du manque d'eau et les 5 autres milliards des inondations. Je m'arrête. Mais la liste, elle, ne s'arrête pas là. Le réchauffement de la planète n'est pas pour demain. Non, il a déjà commencé. Et la grande majorité des scientifiques, même quand ils ne sont pas d'accord sur les moyens, sont d'accord sur les faits. En ce mois de janvier, la lecture de ces rapports me scandalise, mais surtout m'atterre et me font ressentir toute mon impuissance face au dehors, qui me concerne pourtant très intimement. Dans l'affaire Homme, Romain Gary disait « Aujourd'hui, un séisme est une chose rassurante, au moins une horreur dont nous ne sommes pas responsables. » C'était en 1969. Aujourd'hui, il nous est impossible de dire la même chose, car aujourd'hui, nous savons que la responsabilité de l'homme est évidente dans tous les dérèglements qui secouent la Terre. Mais quoi faire? Et par où commencer? Car sous le bombardement continu d'informations, même si mal rapportées, même si trop sommairement analysées, même si biaisées par des analyses mal faites, il y a une chose qui se précise dangereusement. La Terre est menacée, pour vrai. La mise en parallèle de cette réalité qui s'impose de plus en plus, avec l'énormité des problèmes qui sont déjà aujourd'hui à régler et face auxquels nous sommes si lents, souvent si aveugles ou inconscients, sans même avoir commencé à penser à ceux d'une terre en péril, est affolante. Et comment croire qu'en fermant son robinet, en prenant sa bicyclette et en recyclant ses papiers, on finira par faire une différence. Comment croire qu'une solution est à notre portée quand déjà tant d'autres problèmes existent, criants et douloureux, pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution, ou même pire, quand la solution déjà connue est retardée par des intérêts égoïstes? Je n'ai pas de réponse. Ce dehors, tellement plus vaste et complexe que le froid de janvier qui m'attend, m'effraie et me confond. J'aimerais tellement croire que ce défi pourrait unir tous les hommes dans un effort et un but commun. N'est-ce qu'un souhait de janvier, d'une nouvelle année qui commence? Mais quel choix avons-nous? Unis ou morts, semblent nous dire tous ces chiffres qui se font de plus en plus pressants. Je finis deux courriers, je passe quelques coups de fil pour régler des réservations, puis je sors de l'atelier. Une nouvelle petite neige blanche recouvre toutes les traces humaines, donnant à la ville, pendant de trop brèves minutes, un air étonnant de propreté. Je marche vers l'arrêt de mon autobus, la 55 sur Saint-Laurent. Je dis mon autobus, comme d'autres diraient ma voiture. L'attente n'est pas si longue, mais 10 minutes à moins 20 est une expérience douloureuse du dehors. Il arrive enfin. J'avance en arrière où je vois une place. Au chaud de ce véhicule, je regarde mes voisins. Je ne connais personne et personne ne m'attire vraiment, si je veux être honnête. C'est plutôt silencieux, sauf pour ces grichements qui sortent droit des cerveaux branchés sur des écouteurs de mauvaise qualité et qui m'insupportent. Mais à côté de moi, la personne qui respire m'apparaît différemment. J'essaie de la voir autrement que comme une nuisance à mon aisance. Je l'accueille, pour ainsi dire. Entre elle, ou lui, et moi, un lien existe, forcément déjà. Nous sommes passagers de cette terre. Alors, à ma surprise, mon corps, au lieu de se tasser sur lui-même, raidi par l'étrangeté de ce contact étranger, réflexe à la fois de protection, mais qui pourrait aussi être du mépris, du défi, mon corps se détend et physiquement s'ouvre. Je prends conscience d'une autre présence, différente peut-être, mais combien égale, et je l'éprouve vraiment. Ainsi, de nouveau, s'ouvre la marge, cet espace gratuit où l'imagination fleurit. Je pense à l'extrême beauté de cette nature en péril. Je pense au silence si précieux parce que si rare, et pourtant si nécessaire pour la fréquentation de cette marge, espace vital que rétrécit toujours plus la vie moderne, entendez, de consommation. Et pourtant, sans cette marge, qui sommes-nous? Que reste-t-il de nous? Mon voisin le sent-il? J'aimerais le croire, car il me semble qu'un très petit changement prend place. Ce corps d'étranger, cette âme inconnue, qui file comme moi vers le sud de l'île, son destin aussi étroitement lié au mien que par une promesse amoureuse, n'est plus autant un étranger. Et pourtant, rien n'a été dit. C'est, je dois dire, une sensation assez extraordinaire. Alors, vivre avec un peu plus de liens et moins de biens, comme disent les partisans du pacte écologique? Je descends la rue Sherbrooke. Un squeegee, habillé d'une misère qui pendouille, sans gants et sans chapeau, me tend la main, dans le fond de ma poche, pour éviter d'avoir l'excuse du portefeuille placé trop loin. J'ai une petite provision de sous. Je lui souris. Il existe. Et dans ma tête, j'entends toujours les coyotes qui hurlent, leur appel de groupe, de meute, leur appel solidaire.